RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, c'est vous qui êtes avec nous, bien sûr, qui réagissez au 32-16, 32-16 à votre disposition, avec aujourd'hui Joël Dagosséry, la coach de vie, Sandrine Pégan, l'avocate. Nous sommes avec l'agriculteur Didier Giraud. 32-16, durant la deuxième heure des grandes gueules, on reviendra tout à l'heure sur le gouvernement qui dit avoir sorti l'artillerie lourde pour venir au secours, pour venir en aide aux habitants de la commune du Porge. Vous savez, en Gironde, dévastée par le feu, 183 habitations ont brûlé. Alors c'est terrible avec ce qui se passe en ce moment, les piratages, les dysfonctionnements. Le gouvernement dit on va mettre le paquet, l'artillerie lourde, des permis de construire en moins d'un mois, enfin en un mois maximum, des exonérations, des décharges pour tout ce qui concerne les professionnels, etc. Donc on y croit, on peut faire confiance, ça va se passer, les permis de construire en un mois. Rendez-vous tout à l'heure à 10h40, à 10h20. Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, a décidé de ne pas se présenter à l'élection présidentielle. Il va soutenir Édouard Philippe. Donc, est-ce que c'est un duo gagnant ou pas? Là encore, vous venez discuter avec nous. Et Gérald Darmanin, dans l'entretien à La Voix du Nord, appelle Xavier Bertrand à le rejoindre. On voit bien la stratégie qui est en train d'essayer de se mettre en place, d'essayer de fédérer les personnalités de la droite. Peut-être que le regard se tourne aussi vers d'autres. Alors, c'est Xavier Bertrand. Peut-être que Bruno Retailleau va y aller à un moment ou à un autre s'il ne décolle pas dans les sondages. Bref, Philippe Darmanin, est-ce que c'est le ticket gagnant de la présidentielle pour les lecteurs de droite? 32-16 pour en parler avec les GG. D'abord, on va s'intéresser au procès gigantesque aux États-Unis contre les réseaux sociaux. Alors, ça, c'est un procès comme seuls les Américains savent le faire. On a 29 États, dont 4, la Californie, le Colorado, le Kentucky, le New Jersey, qui vont essayer de démontrer devant un jury que Meta, c'est-à-dire Facebook et Instagram, a doté ces plateformes de fonctionnalités qui retiennent les adolescents, qu'il a trompé le public sur les dangers, qu'il a collecté les données sans consentement et donc a violé les lois fédérales. Bref, en fait, que Meta a tout fait pour rendre accro les jeunes comme une espèce de drogue et que ça nuit aussi à leur développement cérébral. Ils demandent 200 milliards de dollars de pénalités. Et ensuite, ils demandent à ce qu'il y ait des nouvelles fonctionnalités qui soient enclenchées. Alors, en fait, là, c'est Meta qui est dans la ligne de mire, mais d'autres sociétés sont aussi cernées par les procédures collectives menées par des associations familiales. Il y a notamment YouTube, il y a TikTok, il y a Snapchat. Alors, est-ce qu'effectivement les réseaux sociaux, ces applications dégradent la santé mentale des adolescents? Est-ce que c'est pour les rendre accros? 32-16 pour en parler avec les GG. Sandrine Pégan, Maître Pégan.
Moi, je trouve
qui n'est pas la dernière à être accro à Instagram, comme Joël Dagosséry d'ailleurs. Donc, la parole.
Non, mais c'est uniquement une activité professionnelle.
On voit bien.
Moi, les réseaux sociaux, on est d'accord sur ça. Je pense que vous n'allez pas me contredire. C'est une drogue. Alors, ça, c'est une évidence. Et le mécanisme.
Tu peux te considérer comme accro ou pas?
Moi, non. Non, mais en tout cas, pour les jeunes enfants, puisque là, on parle de la santé mentale des jeunes enfants, ça peut devenir une véritable drogue. Parce que le mécanisme même de ces plateformes-là, c'est de capter le plus l'attention des jeunes enfants et surtout de scroller à l'infini de façon à ce que jamais tu t'ennuies. Et c'est pour ça qu'après, je trouve que ça développe beaucoup de syndromes de TDAH. Vous savez, tous ceux-là qui sont dans l'hyperactivité, parce qu'à chaque fois, ils sont dans l'infini et du coup,
l'espèce de
ouais, et donc et ça développe la dopamine. Maintenant, moi, je me suis posé une question. Est-ce que finalement, c'est Meta qui est coupable? Ou est-ce que c'est pas plutôt le fait qu'on ait laissé rentrer dans les chambres des enfants Meta? Donc il y aurait peut-être une responsabilité plutôt des parents à aller chercher. Parce que tu vois, c'est un peu, j'ai envie de faire le comparatif, alors peut-être maladroit, mais avec le marchand de cigarettes. Mmh. Est-ce que le parent est pas en train de vérifier si l'enfant n'a pas un paquet de cigarettes qui est caché sous son lit ou dans son cartable? Et ben là, je trouve que ça pourrait être la même chose avec les réseaux sociaux. Il y a une responsabilité des parents, moi je trouve, à aller chercher. C'est trop facile de dire que Meta est un faiseur de drogue et il y a un problème de santé mentale pour les enfants, parce que derrière, il y a aussi les parents qui doivent aussi contrôler, faire en sorte que les enfants qu'ils ont sous leur toit ne soient pas constamment en train de regarder leur téléphone portable. On ne lit plus, on passe des heures à regarder les écrans, et je trouve que c'est pas normal.
Didier Giraud,
je suis complètement d'accord avec ça. Les alcooliques d'un autre siècle portaient pas plainte contre celui qui faisait pousser le raisin et je crois pas que tous les camés de la terre se sont retournés contre la Colombie, quoi, alors qu'il y avait des organisations étatiques qui produisent de la drogue, quoi. Enfin, à un moment donné, dire parce que vous créez de la drogue, vous devez payer pour la dépendance de nos enfants. Je suis pas d'accord avec ça. Par contre, qu'un État comme des États, c'est quelque chose de légal
et qui est en vente libre. Hein.
Oui, mais des États comme les États-Unis,
Instagram,
se structurent, amènent un procès pour qu'on puisse influer sur et réglementer sur les algorithmes, sur ce lien à la dépendance. Enfin, moi, je suis désolé, l'histoire de la dépendance, ça date depuis le début du commerce, quoi. Il y a dans les producteurs de chips ou de gâteaux apéro gens qui mettent des substances chimiques. Je tiens à le préciser.
Comme les petits bonbons que j'ai offert à Joël.
Qui font que tu dois finir le paquet, que dans ton cerveau, tant que le paquet n'est pas fini, tu continues, quoi. Et je pense.
C'est parce que c'est bon.
Oui, mais je pense que.
Je sais pas si c'est la substance, mais ce que tu reçois, oui. Ça te dit, ça devient un plaisir.
Ils vont plus loin D'accord. que c'est bon, okay. quoi. Hein. C'est salé ou c'est sucré, ça va plus loin que ça. Mais je pense que voilà, l'État, il est là pour nous protéger par rapport à ça. Par rapport à ce qu'on peut mettre d'illégal dans nos produits. Et je pense que dans Meta, il y a des choses qui sont un peu borderline, plus ou moins illégales. Vous l'avez tous vérifié, vous avez une conversation, vous parlez d'un sujet, vous ouvrez Facebook, vous recevez une pub du sujet que vous venez de parler.
Oui, c'est incroyable.
Et je pense que autour de ça, il y aurait peut-être bien une action des États à essayer d'encadrer un peu la pratique. Mais que des parents déresponsabilisés qui balancent des écrans à leurs gosses à 3 ans viennent porter plainte aujourd'hui sur la dépendance. Moi, ça me fait marrer.
Tu prends l'exemple le plus extrême de donner un portable à l'âge de 3 ans.
Bah oui, mais c'est accéléré.
Prenons des gens qui sont responsables, des parents qui sont responsables.
Moi, je l'ai déjà dit, dans 3 générations, ils ont une vertée de coudée, là.
Il y en a, et qui essayent de conseiller leurs enfants et leurs réseaux sociaux. Ce que dit ce procès, c'est en fait, vous avez une mécanique. C'est-à-dire que même si tu laisses le portable une heure à un enfant, il y a une mécanique qui fait que cette heure, il va y penser, il aura envie de la revivre. C'est pour ça qu'il pointe du doigt les algorithmes, les likes, le choix d'ensuite de ce que tu donnes, tu vois. Donc, même si tu es le plus raisonnable des parents, même si tu contrôles ton enfant, ce qu'il dit, c'est vous avez créé des outils qui rendent accro. Ce que vous devez modifier, c'est ça, c'est cette addiction. C'est ce qu'ils disent à Meta et c'est ce qu'ils disent aux autres applications, aux autres réseaux sociaux. Donc, s'ils perdent, Mark Zuckerberg et les autres patrons des plateformes devront, alors ils feront appel, ça va prendre des années bien sûr, mais ils devront modifier les outils. Et une fois qu'ils auront modifié les outils, on dira ah, ok, c'est bon, vous pouvez repartir. Ce qu'on leur demande, c'est ça. C'est comme si tu demandais à ton fabricant de chips de lui dire vous m'enlevez la molécule qui rend accro. Mais ça n'empêchera pas. Ça n'empêchera pas que tu demandes des chips.
Petite information. La donnée que tu donnes en disant s'ils sont condamnés, je veux juste rappeler que la juge qui s'occupe de cette affaire-là, c'est celle qui a condamné Apple et Musk. Donc bon, il y a peu de chances que Meta
passe au travers. Voilà. D'accord. Joël Dagosséry, puis ensuite on ira au 32-16 retrouver Sébastien notamment.
Non, mais moi, entre ce que l'a fait la France, c'est-à-dire l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, est-ce que...
Ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel.
Exactement, mais on a tenté quand même d'interdire les réseaux sociaux. Est-ce que font les États-Unis? Je préfère la méthode états-unienne, dans le sens où on demande à ces entreprises-là, à Meta, d'introduire des modifications au niveau de leur logiciel, de leur algorithme, mais on n'interdit pas aux gens de se servir du service. Et c'est pas le Far West, hein. Et
à quoi tu accro, toi? Mais
moi,
franchement.
Moi, par exemple, il faut.
Par les M&M's.
Moi, par exemple, Twitter, X maintenant, ça a été très compliqué. J'ai réussi, là, cette année, j'ai fait une cure de désintoxication.
Non.
Donc, ça a été. Ouais, parce que, en fait, tu scrolls, t'as une actu, t'as un truc, t'as un machin, t'as une vidéo, t'as un truc.
Une vidéo, là.
Et non,
là,
mais t'arrives pas à te raisonner.
Non, mais, si, maintenant, oui, j'arrive à me raisonner. Après, je peux me stopper.
Parce que t'as fait la cure.
Mais en fait, non, je peux me stopper, mais je trouve que je me stoppe trop trop lentement par rapport à ce que ça devrait être. Donc ça veut dire que je peux me retrouver pendant plusieurs minutes et me dire, mais attends, là, ça fait plusieurs minutes que je suis dessus, tu vois. Alors ça se trouve, je devrais lire un, deux, trois trucs et ce serait terminé, tu vois.
Instagram, donc, pareil.
Instagram aussi, pareil. Maintenant, un peu moins parce qu'en fait, ils t'inondent de pubs et moi, ça me saoule. Donc, je suis un peu moins accro à Instagram. Mais, je trouve que c'est pas totalement con de demander à Zuckerberg de modifier son algorithme, ouais, d'empêcher le scroll à l'infini, notamment sur les mineurs. C'est pas totalement bête. Et moi, je crois qu'on peut pas, on peut. Ça doit se coupler. L'action que les États-Unis font contre Meta, plus l'action de nous, en tant que parents, de responsabiliser nos enfants. Ouais. Voilà. Et le fait de choisir soit que l'un ou soit que l'autre, je trouve que c'est pas assez face à un système qui est en train de bouffer le cerveau d'adultes, mais aussi d'enfants, parce qu'on parle des enfants, mais t'as des adultes qui sont là, t'as l'enfant qui te parle, et tu l'écoutes pas, t'es là dans ton truc, tu dis quoi, pardon? Ouais. Donc, en fait, on est tous un peu pris dedans. Donc oui, à la condamnation de Meta, ou en tout cas à l'obligation à ce qu'il change
certaines choses.
Et oui,
ça ouvre un débat sur ce qu'on met dedans.
C'est voilà. Ça.
Et oui,
c'est
aux parents, juste ça.
Tu n'interdis pas le produit.
Exactement.
Sur le principe.
C'est beaucoup mieux. Parce que quand j'ai entendu des parents qui se désolaient, oui, que la mesure française ait été retoquée en disant oui, mais l'État doit faire quelque chose quand même. Il faut interdire.
Mais attends, c'est toujours l'État.
C'est pas à l'État de faire quelque chose.
Voilà. Interdire, t'as raison, c'est pas une solution.
On a Sébastien.
Enfin, le débat, on l'a déjà fait. Mais j'ai un exemple qui est vieux et qui a rien à voir avec ça. Mais c'est
ah bon, bah alors ne le donne pas.
Bah oui, c'est hors sujet.
Ah, l'absinthe.
Au début du siècle, l'absinthe, dans l'extraction de l'absinthe, il y avait une substance qui rendait fou. Ils ont interdit l'absinthe pendant 80 ans, parce que, et aujourd'hui, l'absinthe est réautorisée, se refabrique, parce qu'ils ont travaillé sur la plante et ils ont retiré cette fameuse substance de la plante et aujourd'hui, on peut boire de l'absinthe. Donc, je veux dire, demain, on peut peut-être se servir de méta sans scroller à l'infini, quoi.
On a Sébastien qui est avec nous du Pas-de-Calais. Bonjour Sébastien.
Bonjour les GG.
Bonjour. Vous vouliez apporter un témoignage important, intime, fort, celui de père avec votre fille. Pourquoi, dites-nous?
Ouais, parce que en fait, sur l'influence des réseaux sociaux. Ma fille, au début de l'été, a fait une tentative de suicide. Tout va bien.
Tant mieux.
C'est pas à cause des réseaux sociaux. C'est pas à cause de ça, mais ça l'a conditionné. 8 ou 10 jours avant, j'ai sa meilleure copine qui m'a envoyé un SMS en me disant « Ouais, Sébastien, avec un tel, une autre copine, on s'inquiète pour ta fille. Regarde ce qu'elle a reposté. » Et moi, j'ai Instagram et j'ai pas TikTok. Et c'était sur TikTok et c'était que des reposts à base de « La seule solution que j'ai, c'est de passer à l'acte. Pour que mes parents comprennent, faut que je me foute en l'air. » Donc en fait, c'est pas à cause des réseaux sociaux, mais ça l'a conditionné parce qu'elle se sent... Du coup, avoir passé ces trucs-là sur son fils...
Elle était en boucle sur le même thème, quoi, en fait, c'est mais ça.
Voilà, non, c'est parce qu'elle était victime de harcèlement.
Comme ça, comme le disait Didier, après, on voit que ça. Et puis, ça conditionne, ça rassure, parce qu'elle s'est dit qu'elle n'était pas seule dans ce cas. Voilà, et de ce fait-là, ça a aidé à...
C'est-à-dire quel âge elle a, 15 ans, c'est ça?
13
ans, qui est... L'adolescence, l'âge où on est perturbé, où on se cherche, ce qui est normal parce que votre corps, votre mental, tout évolue. Si vous êtes un peu fragile, les réseaux sociaux vous alimentent ou vous confortent dans cette fragilité et vous n'arrivez plus à en sortir. Quoi. C'est là-dedans qu'elle était tombée. Quoi. Et là, c'est les algorithmes. Et donc, c'est ce que dit le procès américain, c'est vous devez changer ces algorithmes qui confortent ensuite une personne, soit dans sa détresse, soit dans son euphorie, soit dans un autre monde, quoi, en fait. C'est ça, Sébastien.
C'est exactement ça. Et en plus, c'est une autre chose que j'ai constaté la semaine dernière. On était en vacances à l'étranger avec elle. Et quand je lui disais un truc sur un lieu ou quoi, systématiquement, elle allait vérifier sur Instagram ou TikTok. C'est-à-dire que ma parole ne valait moins.
Bien sûr.
Parce qu'ils sont conditionnés.
Donc, il faut que ce procès. Il faut que ce procès serve à changer les choses.
Ce procès, il ouvre des débats dans la société. Enfin, ça reste des choses, les réseaux sociaux, qui sont finalement récents. Et ouvrir ces débats dans la société, ça peut permettre aussi aux parents de prendre conscience des dangers et de comment on transmet aux enfants
par rapport à ces dangers.
Oui, d'autant que le portable, c'est devenu
parce
une nounou. Le portable, c'est devenu la nounou.
Mais voilà, oui, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, on a d'un extrême à l'autre l'interdiction jusqu'à la troisième ou la nounou à partir de 3 ans. Et je pense que quand on est parent aujourd'hui, on doit se positionner par rapport à ça et trouver l'équilibre là-dedans.
Oui, mais
et ces débats, ces procès qui vont créer des débats, à mon avis, ils sont importants dans la société, quoi.
Puisque Didier, tu parles des parents, Sébastien, est-ce que vous, par rapport à votre fille, avant que malheureusement elle passe à l'acte, est-ce que vous aviez instauré des règles justement pour éviter qu'elle soit trop sur les écrans, trop sur son portable, parce qu'on parlait de responsabilité des parents. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question de vous dire, est-ce que moi, j'ai pas été défaillant?
Oui,
sans vous remettre la faute dessus, hein, c'est juste pour savoir comment ça se passe au foyer.
Il n'y a pas de problème. Alors bon, on est séparés avec sa mère et moi, c'est moi qui ai la main sur son téléphone. Donc oui, j'ai mis des règles. Mais après, ce qu'il y a, c'est le moyen de communiquer qu'ils ont, qu'elle a avec ses copines, c'est les réseaux sociaux.
Bien sûr.
C'est pas le SMS, c'est pas le téléphone, c'est par Snapchat, c'est par TikTok. Donc en fait, ça revient à la couper de ses copines, ouais. De ses amis que je connais très bien, qu'elle connaît depuis l'école maternelle. Donc c'est leur moyen de communiquer. Donc je peux pas non plus tout verrouiller à une demi-heure par jour, par exemple.
C'est même copines qui ont attiré votre attention.
Oui, tout à
voilà.
Fait.
Donc là, heureusement.
Il y a aussi eu un rôle.
Ouais, heureusement. Ouais.
Mais Sébastien, restez avec nous parce qu'on va écouter Thomas, qui est étudiant, qui est à Paris. Bonjour, Thomas.
Bonjour.
Vous-même, est-ce que vous pourriez vous considérer, je sais pas, comme drogué aux réseaux sociaux?
Toujours, ouais. Toujours.
Ça veut dire quoi, toujours?
J'avais, à l'époque, Facebook, Insta. Après, j'ai encore navigué sur Twitter et Snapchat. Et, même TikTok. Et ce que je faisais, ça prenait au moins par jour, hein, 3-4 heures. J'allais 35 minutes sur Instagram. J'en avais marre, j'allais 35 minutes sur TikTok. J'en avais marre, je partais sur Snapchat, ainsi de suite. Et puis la journée, comme ça, défilait. Alors que ce que je voyais, globalement, c'était le même univers de contenu que je voyais. Mais c'est juste une forme différente, mais présentée. Enfin, je sais pas. Moi, j'aimais bien. Et donc, du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à me couper de TikTok. Au début, ça a été compensé par plus de temps sur les autres applis. Donc, du coup, j'ai essayé de trouver d'autres activités à faire à côté. Là, pour l'instant, la seule application qui me reste, c'est Snapchat.
D'accord.
J'ai réussi à couper tous les autres.
Et comment vous avez réussi? Vous vous êtes imposé des veilles? Vous avez supprimé vos comptes? Donnez-nous des astuces.
Alors, ouais. Alors, j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait progressif. J'ai mis des. Sur iPhone, vous pouvez limiter le temps d'utilisation d'une application avec un mot de passe que vous donnez à quelqu'un d'autre.
Ah.
C'est-à-dire que si je suis sur TikTok et je me mets à 30 minutes, si j'ai pas le mot de passe que j'ai donné à une autre personne, je ne peux pas débloquer.
Ah oui. D'accord. Donc au-delà de 30 minutes, il vous faudra le mot de passe que. D'accord.
C'est ça. Donc au début, j'ai fait un temps d'imitation pour chaque application. Et après, j'ai mis un temps de limite.
D'accord.
Pour
vous êtes arrivé à vous réguler aujourd'hui, alors.
C'est ça.
Et comment vous sentez, Thomas? Alors, du coup, vous vous sentez mieux maintenant? Vous vous sentez plus libre, moins tributaire de tout ça? Vous passez votre temps à faire autre chose? Vous lisez? Vous faites du sport?
Vous avez repris les études, peut-être, Thomas?
J'étais toujours dans les études.
Ouais, mais du coup, moins si vous faisiez 4 heures de réseaux sociaux par jour.
Non, en fait, avant, je pensais que je révisais parce que. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure dans une discussion. Quand vous parlez de quelque chose, vous tombez dessus. En fait, ce qui était alors que je n'avais jamais fait de recherche là-dessus, les réels ou les shorts sur lesquels je tombais, c'était vraiment en lien avec mes études.
Et oui, c'est ça. D'accord.
Donc du coup, je me convaincu que je perdais pas mon temps.
Tout ce que vous faisiez, c'était utile, quoi, en fait. Alors que.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis même aujourd'hui, vu qu'on regarde plus du tout la télé, si vous voulez faire une activité sur Paris, aujourd'hui, vous avez plein de trucs sur Instagram, sur TikTok, etc., où vous vous rendez compte que, en fait, c'est une publication, et ça peut attirer des dizaines de
milliers. Vous le faisiez à la fois pour vos études, et ça vous a rendu accro, sauf que les jeunes, à 13, 15 ans, en fait, en fonction de leur centre d'intérêt ou de leur santé mentale, comme nous l'a raconté Sébastien, après vous êtes dans une espèce de tunnel dont vous n'arrivez pas à sortir, et vous vous rendez compte que, bêtement, vous retrouvez à regarder des photos de type ou de jeunes femmes qui sautent d'un rocher dans l'eau, de chiens qui s'aboient dessus, d'araignées, de ce que vous voulez. Et puis, alors, quand malheureusement, comme Sébastien, vous êtes à 13 ans ou à 15 ans comme sa fille à un moment un peu perturbé, ben là c'est encore pire. C'est parce qu'on vous enferme là-dedans, on vous dit que effectivement vous n'êtes pas le seul à vivre ça, et puis vous avez même des tutos pour essayer d'en finir.
Ah, mais je pense
c'est,
que même
c'est ça qu'il faut arriver à réguler. On en a tous, Alain, des exemples débiles. J'en ai un très parlant. Il y a pas très longtemps, hein, on va au resto ce soir à l'improviste. Allez, ouais, on va au resto. On regarde. Allez, on va où? On regarde sur le téléphone. Hein. Ouais,
oui, mais ça,
ah non, plutôt celui-là. Oh, on va lire les avis. On commence à lire les avis. Un avis. Ah ouais, puis celui-là, les avis, c'est quoi, machin? Et puis à la fin, bah il y a plus un resto de libre parce que tout est complet, parce que t'as passé une heure et demie à lire des avis, ouais. Et tu vas pas au resto parce que
et que le restaurant
complet,
que voilà. Le restaurant est fermé.
Voilà. Là, donc c'est moralité pourquoi... à un moment donné, quand on n'avait pas cet outil-là dans la poche, ben je trouve qu'on était plus libre, messieurs dames.
Non, mais de toute façon, à 12-13 ans, on n'a pas vraiment de libre arbitre, tu vois. Donc c'est même pas une question de vulnérabilité. C'est pas parce qu'à 12-13 ans t'es plus fragile que d'autres que du coup tu peux tomber plus facilement. C'est juste qu'à 12-13 ans tu n'as pas ton libre arbitre. Donc c'est pas la même chose que pour nous les adultes.
Ils demandent 200 milliards de dollars parce que les experts ont regardé à partir des données internes de Meta combien d'adolescents et d'enfants de moins de 13 ans utilisent Instagram et Facebook depuis 2012 et ils ont ciblé par enfant, donc par famille, par enfant, ça ferait 20 000 dollars par enfant et donc ça fait un total de 200 milliards, ce qui est une année de chiffre d'affaires de Meta.
Ouais, ça va.
Ouais.
Ça va pas les ruiner. Hein.
Ouais, alors après, on peut critiquer l'expertise, hein. Elle est pas contradictoire, etc. Bon, là, c'est la juristique.
Le procès va commencer. C'est un procès retentissant et qui servira peut-être de jurisprudence en fonction de ce qui se passe aux États-Unis. Mais ça ouvre le débat. Merci à Sébastien et à Thomas d'avoir été avec nous. Les réseaux sociaux dégradent-ils la santé mentale de nos enfants? C'est la question qu'on a posée. Mais vous mettez oui quand même. Alors, vous répondez bien sûr sur les réseaux sociaux, ce qui est normal. Vous mettez oui à plus de 81%. Dans un instant, la politique. Gérald Darmanin rejoint Édouard Philippe à la présidentielle. Est-ce que c'est le duo gagnant pour la droite? 32-16 pour en discuter avec les GG. Il est 10h20, vous êtes sur RMC et RMC Story pour écouter et regarder les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
J'ai les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Vous discutez, vous débattez, bien sûr, avec les grandes gueules, avec Didier Giraud, l'agriculteur, Sandrine Pégan, l'avocate, et Joël Dagosséry, la coach de vie. On va parler d'un ticket qui se met en place, un duo, pour essayer de gagner la présidentielle de 2027, le duo Édouard Philippe, Gérald Darmanin. On est à 8 mois de l'élection présidentielle et Gérald Darmanin, l'ancien ministre de l'Intérieur, aujourd'hui garde des Sceaux, a annoncé dans La Voix du Nord qu'il rejoignait Édouard Philippe. Il renonce à la course à l'Élysée. Il dit l'intérêt général, c'est ce que dit Gérald Darmanin, ce n'est pas de multiplier les candidatures, c'est plutôt aujourd'hui d'essayer de fédérer, de trouver une dynamique et de l'emporter, bien sûr, dans l'intérêt de la France. Alors, il appelle aussi le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, à rejoindre aussi Édouard Philippe. Alors, les deux hommes sont intimement liés. D'ailleurs, dans l'interview, Gérald Darmanin remercie Édouard Philippe de l'avoir fait ministre. Alors, est-ce que c'est une opportunité pour la droite? Est-ce que c'est un ticket ou un duo gagnant, potentiellement gagnant, Édouard Philippe, Gérald Darmanin? 32-16 pour en parler avec les GG, Joël Dagosséry.
Mais écoute, on a déjà goûté à ce plat, il me semble. D'ailleurs, on est encore avec Monsieur Darmanin en train de manger notre assiette. Moi, je suis pas contre le réchauffé. Hein. De toute façon, le réchauffé, parfois, tu fais ton plat de lasagne le jour même, puis tu le mets au frigo le lendemain.
C'est mieux avec le bourguignon.
Ouais, bah oui.
Mais encore mieux.
Et ben quand tu reviens le lendemain ou même deux jours après, des fois c'est encore très bon et même des fois meilleur que le jour où tu l'as cuisiné. Mais là c'est pas du réchauffé, là c'est du plat qui a pourri au frigo. Et ça quand tu soulèves le tupperware, t'as de la moisissure.
Oh,
ça
sent pas bon. Arrête.
Bah oui, bah excuse-moi. C'est comme ça que je vois ces deux compères, c'est moisi. Pardon.
D'accord.
C'est moisi dans le sens où
la date de consommation est passée.
La date de consommation est passée. On a bien Monsieur Philippe, on l'a consommé. Moi, j'avais beaucoup apprécié, en tout cas avant le Covid, en tant que
oui, avant le Covid. Ouais.
Mais il faut dire la vérité. Je veux dire, le bilan, il est pas top. D'accord. Monsieur Darmanin, il a occupé les postes les plus régaliens de ce gouvernement, les postes les plus en vue, ceux dans lesquels tu te démarques. Et à ces postes-là, que ce soit police, justice, il a même fait aussi, je pense, compte public, si je me souviens bien. Je veux dire, il n'y en a pas un des trois où tu regardes le bilan 7-8 ans après et où tu te dis « Ah waouh, ça a vachement avancé, ni au niveau des comptes publics, la justice, apparemment c'est plutôt Monsieur Dupont-Moretti qui a réussi à ramener un peu de budget, ni au niveau de la sécurité intérieure. » Donc, pardon, Là, vraiment, je regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'on nous propose à manger? Qui a envie de se déplacer avec sa fourchette pour le premier tour et aller manger ce plat? Pas moi.
Une fourchette en carton?
Et quand il nous dit, est-ce que c'est une chance pour la droite? Mais on s'en fiche. Moi, je veux savoir si c'est une chance pour moi, pour mes enfants, pour mon voisin, pour les entrepreneurs, pour les professeurs. Mmh. C'est pas une chance pour la droite qu'on cherche, c'est une chance pour nous. Et eux, ils sont entre eux. Oui, mais ce serait une chance
donc
pour la droite.
Ça veut dire,
mais je m'en fiche.
Hormis le fait que tu les aies vus à l'œuvre dans le gouvernement d'Emmanuel Macron en tant que Premier ministre, vice de l'Intérieur et garde des Sceaux. En fait, il y aura pas de programme de rupture, c'est ce que tu veux dire.
Mais pas du tout. Il y aura pas de programme de rupture.
Il y aura pas de nouvelles idées. Il y aura pas de cap. Ce sera la continuité du macronisme.
Je veux dire, la France de 2040, c'est pas avec eux que tu l'auras. C'est pas avec Philippe et Darmanin que tu auras de la France de 2040. En tout cas, de la France de 2040, puissante, dans la réussite, avec des comptes plutôt assainis, dans l'innovation. Ça, c'est pas avec ce duo-là. Donc, non. Bah, la droite, c'est bien pour
pourtant,
eux.
Pourtant, souviens-toi, Édouard Philippe, là, on verra comment il fait sa rentrée. Il sera notamment au rendez-vous de Tourcoing de Gérald Darmanin. Il a déjà assumé quand même une rupture avec Emmanuel Macron. Souviens-toi même que quelques semaines, quelques mois après la dissolution, il avait dit la situation n'est plus tenable. Il avait même appelé Emmanuel Macron à partir, tu vois, pour avoir des élections anticipées. D'accord. Donc on voit qu'il n'est plus sur la ligne d'Emmanuel Macron. Sandrine, qu'est-ce que tu en dis?
Moi, ça m'embête un peu, je vais vous dire, je comprends pas pourquoi c'est Darmanin qui tient la porte à Édouard Philippe. Moi, j'aurais aimé qu'ils se présentent tous les deux et que ce soit les électeurs qui tranchent. Moi, j'aimais bien Darmanin et je l'aime encore bien en tant que ministre de la Justice, parce que je trouve qu'il assumait une ligne, il est très terrain et je trouve qu'on aurait pu avoir une confrontation avec de vraies personnalités. Et ça m'embête aussi que Darmanin la mette en avant cette histoire d'affaire de loyauté personnelle parce que oui, Édouard Philippe m'a fait ministre. Bon, je sais pas, on n'est pas là pour lire le meilleur copain de la promo de Macron, quoi, tu vois. Donc, vraiment, je suis déçue qu'il renonce et je suis pas certaine que...
En même temps, si c'était présenté plus Édouard Philippe, alors il fallait les 500 signatures derrière qui est le principal...
Mais ils auraient eu, je pense.
Je pense, effectivement, mais ça a éparpillé les voix.
Ça faisait
une chance de défaite, de ne pas être qualifié pour le second tour qu'autre chose. Tandis que là, on verra que ce que diront les sondages de rentrée. Mais ça peut créer une espèce de dynamique, tu vois.
Oui, il dit que c'est pour éviter la division à la division. Mais je pense qu'il aurait pu incarner un vrai candidat. En tout cas, par rapport à ce qu'il a fait déjà sur le thème de la justice, je pense sincèrement qu'il aurait pu un peu relever la France. Et ce duo, je ne le vois pas du tout gagnant. Je ne crois pas en Édouard Philippe. Donc voilà, malheureusement.
T'as vu les défis qui nous attendent. Enfin, on a des défis en matière technologique. D'ailleurs, on l'a vu avec ce truc de cybersécurité qui est parti en cacahuète. Donc, on a des défis en matière technologique, on a des défis en matière d'éducation, on a des défis en matière de souveraineté alimentaire.
Joël, t'en vois d'autres, toi? T'en vois, toi? T'en as qui te font rêver?
Bah oui, moi, je suis...
Ah bah oui, il y a son petit chouchou.
Qui sera pas au deuxième tour non plus.
Libéral, que voilà, je me retrouve plus dans ce type d'idée. Mais on a vraiment des défis et je vois pas en quoi Darmanin, la ligne de Darmanin, d'ailleurs, dans ses dernières interviews, tu vois, il a fait beaucoup de constats et très peu de propositions. Donc moi, je veux bien qu'il fasse des constats et qu'il nous dise ce que nous, on voit déjà. Mais en termes de propositions sur 5 ans, sur 10 ans,
Il a quand même fait le...
Oui, parce que là où Joël a raison, c'est que Édouard Philippe, souviens-toi, il a c'était quoi l'adjectif qu'il avait employé? Massif. Ah oui. Il a promis, tu vois, un programme massif, vraiment une espèce de rupture avec les 10 ans que les Français ont vécu. Donc, en prenant Gérald Darmanin, est-ce que t'es pas en contradiction, justement, avec ce que tu promets aux Français, quoi?
C'est d'ailleurs pour ça que pour répondre à Sandrine, c'est d'ailleurs pour ça que la figure de proue, c'est Édouard Philippe, qui est maintenant un peu plus loin du macronisme que le Darmanin. Parce que Darmanin, il est toujours au cœur du macronisme, quoi. Darmanin, depuis le premier jour de l'élection de Macron, il a toujours été ministre sans jamais discontinuer. Ouais. Donc, à un moment donné.
Ministre du budget, ministre de l'Intérieur, garde des Sceaux.
Les deux, mais Darmanin encore plus, pour moi, ils auront un vrai problème dans la campagne présidentielle, c'est de se dissocier du bilan qui est catastrophique.
Il faudra l'assumer, ouais.
Voilà, c'est ça. Je ne sais pas comment ils vont faire pour assumer le bilan.
Le bilan de la justice, pour Darmanin, il est plutôt très bien. Le narcotrafic, il l'a quand même bien réduit, et si ce n'est pas endigué.
Le mec qui a été garde des Sceaux, qui a été ministre de l'Intérieur pendant 5 ans ou 6 ans, qui le lendemain crache sur les flics, Moi, si ça vous fait rêver,
ah ouais, non, il a pas véritablement craché.
Moi, des mecs comme ça, ça me fait pas rêver.
Quand il était ministre, quand il était ministre de l'Intérieur,
Mélenchon, Tondelier, ça me fait pas rêver non plus, quoi.
Oui, bon, ben voilà.
Mais derrière ça, je trouve que le gros problème des deux, et plus pour Darmanin, c'est de porter le bilan à Macron. C'est tout.
Mais moi, je veux bien qu'on lutte contre le trafic de drogue et ça tue énormément de gens, même dans les quartiers. Donc je comprends.
J'aimerais bien voir c'est quoi les résultats.
Ça pollue la vie des citoyens.
J'aimerais bien voir c'est quoi les résultats, Sandrine.
On regarde la justice civile. Toi, tu trouves que c'est normal d'attendre 4-5 ans pour passer devant un juge, tu trouves que c'est normal d'avoir
ça, c'est
9
comme les Canadair, hein, c'est
avant
pas
d'être
que...
condamné, etc. Non, pour moi, c'est pas un bon bilan. Je trouve que
ça, ils ont augmenté les effectifs, que ce soit au niveau des greffiers, que ce soit au niveau des magistrats. Bien sûr qu'il y a encore à faire, mais on partait de tellement loin. Tu te rends compte, Joël?
Bah oui.
Et je le vois au quotidien. Moi, je vois des dossiers qui durent pendant des années, si ce n'est pas 8 ans.
Tu vois que ça change.
Mais ça s'améliore. Véritablement, je le dis, et c'est pas pour, et pour le coup, c'est pas une posture parce que je suis devant vous, pour faire un peu référence à un sujet précédent, mais je trouve que ça s'améliore et dans le bon sens. Mais quand je dis dans le bon sens, c'est-à-dire que vraiment, je vois une nette différence avec avant. Les dossiers vont de plus en plus vite. Les magistrats, je trouve qu'il y a une vraie prise en considération des choses et il y a un petit peu plus d'humanité qu'il y avait moins qu'avant.
On a Pierre qui veut réagir, Pierre Delhéreau, un fidèle des jugés. Bonjour Pierre.
Oui, salut l'équipe, joyeux anniversaire Monsieur Marchal.
Merci Monsieur Pierre. Pierre, qu'est-ce que vous en dites alors de ce duo, de ce ticket? Aux États-Unis, on dit le ticket, de ce ticket Philippe Darmanin alors.
Alors, comme je le disais dans mon message, je pense que je préfère me couper une main plutôt que d'aller voter pour eux.
Ah bon?
Ouais, c'est clair.
Bah dites donc.
Ouais, non.
Gardez votre main quand même, vous êtes paysagiste, vous en avez besoin. Hein.
Oui, de toute façon, on ne force pas à aller voter, donc ça va, jusqu'à présent. Je vais la garder ma main. Non. Non, je suis,
c'est autant repoussoir.
Déjà, pour moi, monsieur Philippe, il est pas de droite, déjà. Comme je l'avais dit à une ancienne émission, s'il était aux États-Unis, on le traiterait de communiste, déjà, premièrement. Et monsieur Darmanin, je veux dire, le bilan de monsieur Darmanin, depuis le temps que je vous écoute, je veux dire, on va faire, on a fait plus, mais au final, il n'y a rien. Je veux dire, il n'y a rien. Au niveau des incendies, je veux dire, je suis bien passé pour en parler, on nous avait promis des drones il y a quelques années. Finalement, les drones, ils sont partis pour surveiller les manifestations.
C'est pas Darmanin, ça.
C'est Nunez. Si, il avait promis des drones, monsieur Darmanin. Si, c'est à votre antenne.
Ah, quand il était
venu. Je m'en rappelle. Pour les incendies, mais il y a... En 2022, je crois.
Mm-hmm. Mais aujourd'hui,
2022,
Pierre...
Donc, c'est les promesses, si vous voulez. C'est des gens qui font des promesses, mais qui ne les respectent pas.
Mais Pierre, je comprends. Vous êtes un électeur de droite traditionnelle, vous, Pierre, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui, je suis plus une droite libérale. C'est sûr qu'il n'existe pas encore en France. Hein,
d'accord.
Jour, hein.
Mais est-ce que justement, c'est pas ça tout doucement, qui va se mettre en place? C'est-à-dire, Edouard
Philippe.
Mais
pourquoi? Je veux dire, ils ont fait partie de l'ancienne équipe qui a échoué. Qui, je veux dire, pour moi, sur leur front, il y a écrit DEP. Donc c'est comme si on mettait, je veux dire, l'équipe de France, on mettait l'équipe de l'OM à la place de l'équipe de France.
Mais oui, je comprends ce que vous dites. Mais Pierre, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est offrir effectivement un espace à cette droite libérale qui puisse aller plus loin que ce que Emmanuel Macron a fait. Donc, on verra quel est le programme massif d'Edouard Philippe. Pour pas laisser uniquement le choix aux Français du Rassemblement National ou de la France Insoumise.
Mais pour faire ce choix-là, tu vas pas chercher les sondages pour remplacer Deschamps.
La ficelle est trop grosse.
Tel que les sondages le donnent aujourd'hui. Parce que ce qui va faire l'élection, ça va être la dynamique. La dynamique, ça va être celle des sondages avant qu'il y ait vraiment les confrontations ou les face-à-face. Pour le moment, celui qui apparaît le mieux placé, c'est Edouard Philippe. Gérald Darmanin, il voit bien qu'il décolle pas.
Mais
te dis là, les sondages, aujourd'hui. Peut-être que ça va se gameler, Didier, peut-être, effectivement.
Non, mais Darmanin, il n'a pas été autant sondé que Philippe et Attal.
Il sent bien qu'en plus, avec l'histoire de l'IANA, où il s'est mis les policiers à dos, ça laisserait des traces à la rentrée. Donc il se dit, il faut qu'on trouve un couloir maintenant. Le couloir, tu ne peux pas l'avoir tout seul. Donc tu te mets avec Édouard Philippe. Peut-être que Xavier Bertrand, qui est candidat potentiel aussi.
Tu raccroches
ensuite,
Retailleau, et tout le monde.
Tu rattaches Retailleau. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Retailleau. Et peut-être que David Lisnard, à un moment, va se dire, mon programme libéral, ce que je veux mettre en place, comme le disait Pierre, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse le porter. Et puis tu fais venir une alternative de droite avec le côté régalien un peu dur, Bruno Retailleau, l'expérience avec Édouard Philippe et Gérald Darmanin, Philippe à l'Élysée, peut-être Darmanin à Matignon, et à l'économie, peut-être David Lisnard. Et tu auras cet attelage sur scène qui donnera, la droite est là, la droite est retrouvée, la droite est réunie. Et tu auras peut-être d'autres personnalités qui viendront à ce moment-là.
Tu l'as dit tout à l'heure, ça fait 18 ans que je viens commenter de la politique ici.
Mais
très sincèrement, est-ce que tu crois pas que si ces deux-là,
il serait mis au service d'un mec comme Lisnard.
Ouais, c'est plutôt ça.
Ça aurait pas été plus crédible pour gagner les élections plutôt que de penser à leur petite personne
Sauf que David Lisnard, le maire américain d'aujourd'hui.
Mais ça peut être Retailleau aussi.
Il a le président de l'Association des maires de France, il a un déficit d'image.
Ah bah oui, bien sûr.
Il a un déficit de notoriété.
Forcément. Oui, mais donc il y a les mammouths qui sont sur le banc,
Excuse-moi, il y a vraiment une mission quand tu as été aussi haut dans la politique à un tel leader, c'est d'aller faire émerger d'autres leaders de ton parti.
Ben non.
Donc, si, c'est ça, normalement.
Non, c'est de la posture, parce qu'en vrai, c'est tout l'inverse.
Oui,
hein.
Je suis d'accord avec toi, mais normalement, si tu es intelligent, c'est que tu te dis, OK, lui, il a un programme qu'on n'a jamais essayé, qui est un peu novateur et tout, on va se mettre derrière lui, on va le faire monter, on va lui donner de la force. Tu crois qu'il donnerait de la force? Non, il se tire dans les pattes. Parce qu'en fait, ils veulent garder. Mais tu te rends compte que Darmanin, lui, il a été ministre depuis le début avec
2017.
Il traîne dans les paplards de Sarkozy depuis avant, et il veut continuer. C'est-à-dire, il veut là encore. C'est à vie, à vie, à vie. Il veut encore être là pendant 5 ans, voire 10 ans. Mais ils savent rien foutre de leurs 10 doigts. C'est-à-dire que tu leur enlèves ça, ils peuvent rien faire de leur vie. Il veut continuer. Regarde Hollande.
Son maire.
Regarde Hollande qui est encore là. Je veux dire, mais ça n'existe pas dans un autre pays, ça n'existe pas en Angleterre, ça n'existe pas en Allemagne, c'est ici que ça existe. C'est-à-dire, ils sont là, ils s'accrochent. Donc moi, je suis désolée, je m'inquiète de quelqu'un comme Darmanin ou même comme Philippe qui ne savent faire que ça, Ils sont incapables de gérer les défis qui nous attendent
parce que tu crois sincèrement que David Lisnard il est capable de gérer les conflits ou les problèmes de la France il s'est simplement occupé de sa ville. Alors il a l'impression que du fait d'avoir fait
de Cannes, bien parce qu'il a été réélu deux fois au premier tour.
Oui, d'accord, mais bon, c'est pas parce que tu l'as fait sur une ville que tu vas pouvoir réussir à le faire sur toute la France. Mais il est pas capable de fédérer. On l'a reçu sur le plateau des GG, pardon, mais il est technocrate, il est pas du tout proche du peuple. Quand il parle, on a l'impression que il veut se donner
affiches pour Lisnard, mais je trouve qu'il se grandirait à faire ce que dit Joël, à se mettre derrière un cheval tout neuf et amener justement leur expérience. Ils auraient plus de chances de réussir dans l'ombre de quelqu'un de neuf. Parce que finalement, ils vont devoir assumer un
non, parce que,
Peut-être qu'effectivement, le ticket, tu vas
raconter. Regarde,
au fil des semaines à la rentrée, mais il a bien compris.
Djebari, il est barré.
Jean-Baptiste,
mais
qui était l'ancien ministre des Transports.
Pourquoi il nous plaisait? Mais pour ça! Il nous plaisait pour ça, parce que quand il a été ministre, et puis il est capable de faire autre chose.
Et voilà. Quand il a été grande gueule, il a été grande gueule aussi.
Ah ouais, tu vois.
Et d'ailleurs, il le reconnaît lui-même, que le monde politique, maintenant, ça y est, il en a soupé. Quoique, faut jamais dire, tu sais, dans la politique.
Mais oui,
faut jamais
mais
dire que t'as terminé. Mais peut-être que tu le verras revenir, peut-être derrière le ticket Édouard Philippe.
En attendant, il peut faire autre chose de sa vie. Il sait comment faire autre chose de sa vie. On dit pas qu'il faut pas revenir un jour. Parce que c'est de l'expérience que tu vas ramener en politique, parce que t'auras
donc, et on en a besoin. De cette expérience-là
mais quelqu'un
aussi.
Qui est dans les palais depuis 15 ans, qui est dans les palais, les huissiers qui t'ouvrent la porte, qui te servent le verre d'eau, etc. Je veux dire, à un moment, cette personne-là, elle est complètement déconnectée et elle te demande de voter encore pour elle 5 ans. Mais on va où, là?
Non, mais Joël, il doit travailler au moins 10, 12 heures, si ce n'est pas 13 heures, 15 heures par jour, monsieur Darmanin, comme les autres. C'est pas parce que.
Il travaille pas.
Elle est en train de dire que, du coup, il profite des privilèges.
Bah oui, si, on est.
Non, mais c'est pas parce qu'on t'apporte ton verre d'eau ou autre chose que derrière, t'es pas en train de travailler comme un forcené. Et de vrai pour la République.
Qu'est-ce qu'il en sait, lui, des défis des entreprises, là, sur l'export, sur les charges, etc. Il sait même pas ce que ça
s'appelle. Parce que c'est mieux?
Ah, bah, je pense que oui, parce qu'il a déjà, été entrepreneur, donc j'imagine.
Mais on va regarder ce que vous en pensez. Je remercie à Pierre d'avoir été avec nous. Est-ce que Édouard Philippe, Gérald Darmanin, ça peut être le ticket gagnant pour la droite? Non, pas du tout. 92%, quasiment 93%. Non.
Ça s'appelle un rejet du macronisme, ça.
À suivre dans les GG, dans les grandes gueules. Le Porsche, le gouvernement dit sortir l'artillerie lourde pour les sinistrés des... C'est Didier Giraud qui ricanait comme ça. Dit sortir l'artillerie lourde pour les sinistrés du Porsche avec des permis de construire qui vont être délivrés en moins d'un mois pour que tout puisse repartir assez vite. 32-16 pour me dire si vous y croyez. À tout de suite avec les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Avec les obligé avec les grandes gueules d'être en direct sur RMC, RMC Story. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Joël Dagosséry est là, Sandrine Pégan aussi, Didier Giraud, une coach de vie, une avocate, un agriculteur. On va s'intéresser au sinistré du Porge. Nous sommes au Porge où est venu le Premier ministre hier, Sébastien Lecornu. Il est venu annoncer une accélération des permis et des aménagements fiscaux. Il est venu dire, le Premier ministre, qu'il avait sorti l'artillerie lourde pour reconstruire après le méga-feu. Ne rien cacher sur la gestion des incendies. Est-ce qu'on y croit ou pas? C'est la question qui est posée. Est-ce qu'il a réussi à convaincre? Écoutez les habitants du Porge rencontrés hier par les équipes d'RMC.
Pas assez, quand on voit que rien qu'au Porge, il y a 183 maisons qui ont brûlé. Il parle des 15 communes. C'est ridicule que c'est une goutte d'eau dans la mer.
La durée du permis de construire, ça prenne un mois ou trois mois. C'est pas ça qui fera changer les choses. Là, d'abord, il faut qu'on déblaye, qu'on retrouverait notre maison, notre refuge, notre bien-être. Mais est-ce que, justement, ça serait pas difficile? Parce qu'on retrouve évidemment pas les meubles.
Didier Giraud.
Moi, je trouve qu'il y a rien qui va dans cette communication. Déjà, le fait que Lecornu idéal, qu'il y avait une espèce de manifestation et qu'il ait évité cette manifestation parce que il avait peur d'être pris à partir. Rien que déjà, sur le fond, ça va pas. Et puis après, dans les chiffres, il y a 183 maisons brûlées sur une seule commune. Donc dans les chiffres, je comprends pas. Et après, annoncer que les permis de construire vont aller vite, ouais, d'accord, mais... Il peut faire tous les effets d'annonce qu'il
a. Reconstruire non pas à l'identique, mais à l'équivalent.
Il n'avait pas les moyens d'État pour faire en sorte que ça ne brûle pas. Donc, je ne vois pas comment il va reconstruire en une semaine. Enfin,
pas reconstruire en une semaine. Ce que l'on veut, c'est que les projets aillent vite, si tu veux. C'est donner de l'espoir aux habitants.
Quand tu as laissé cramer parce que tu n'avais pas assez de moyens et que les moyens, ils ont été engagés ailleurs, parce qu'il y a quand même une polémique là-dessus. Faut en parler, quoi.
Tu penses qu'on a privilégié le Cap Ferret plutôt que le Porge?
Apparemment, non. Selon les communications officielles, non. N'empêche que quand ta baraque elle est brûlée et que t'as vu les pompiers partir ailleurs à minuit, tu peux quand même t'interroger, quoi. Et dire en contrepartie de ça, refuser le débat public quand il y a cette accusation là, et en contrepartie de ça, dire on va accélérer les permis de construire, tu comprends bien que les habitants ils sont en colère parce que ça répond pas à leurs attentes, tout simplement. Alors moi, je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. Je pense qu'il faudrait déjà grouler le pet des assurances pour que ça aille vite au niveau assurance. Et puis après, ça, forcément qu'il faut faciliter tout ce qui peut être facilité au niveau administratif. Mais annoncer la réduction du délai de permis de construire à des gens qui ont tout perdu et qui t'accusent d'avoir mis les pompiers ailleurs, enfin, je suis désolé, pour moi, c'est pas du niveau d'un Premier ministre.
Hein. Sandrine.
Moi, je trouve que M. Lecornu, il nous fait doucement rire, parce que sincèrement, justement, tu viens d'en parler, Didier, le problème des Français qui ont tout perdu, leur maison, leurs souvenirs, tout ça, c'est pas le permis de construire, c'est pas le fait qu'il soit accéléré, c'est l'indemnisation des assurances. Et on sait pertinemment que les assurances sont nos meilleurs ennemis.
Alors, le gouvernement dit qu'il va les avoir à l'œil.
Oui, il va les avoir à l'œil. Mais il va faire quoi? Il peut mettre la pression qu'il veut, hein. Les assurances, c'est de l'ordre du privé. Donc, il va pas pouvoir porter plainte contre eux, il va pas pouvoir leur mettre des sanctions, ni quoi que ce soit. Et puis bon, c'est bien beau de distribuer des bonus et des bonnets d'âne à d'autres en disant, attention, hein, je vous ai à l'œil au niveau des assurances. Mais ce qu'il faut véritablement, c'est faire en sorte que les choses avancent et évoluent pour plus tard, parce qu'on sait pertinemment que ça va se répéter. Les incendies, les inondations, etc. Donc voilà, investi là-dedans.
Est-ce qu'il faut reconstruire aux mêmes endroits? Est-ce qu'il faut remettre la forêt de la même manière? Est-ce qu'il faut d'autres essences?
Il y a
d'autres défis.
Il faudra sortir du système assurantiel tel qu'on le connaît aujourd'hui, quoi.
Alors,
parce qu'à un moment donné, les primes d'assurance, ils vont augmenter. Si tous les ans, il y a 150 maisons, ça va devenir un problème.
Vous vous souvenez, en janvier 2019, l'explosion de la rue de Trévise. J'étais dans le dossier pour une de mes clientes où l'appartement avait été complètement explosé. Donc, ça s'est passé en janvier 2019. Elle a obtenu une indemnisation. Nous avons obtenu une indemnisation. Combien de temps après? En décembre 2024. Je ne sais pas si vous imaginez,
cinq ans après,
alors que l'accord cadre avec les assurances avait été signé en janvier 2022. Et encore en 2026, il y avait eu des problèmes avec le Conseil de Paris. Donc autant vous dire que les assureurs ne sont pas vraiment nos meilleurs amis. Hein.
Joël Dagosséry.
Non mais la chance qu'ont ces gouvernements, c'est qu'on n'a pas le time de suivre toutes leurs déclarations. C'est-à-dire que là, il dit, ça va aller très vite. On va accélérer les permis de construire. Nous, on entend ça. On se dit, c'est bien, ok, etc. C'est déjà pas mal, machin. Et puis, dans un mois, on a une nouvelle catastrophe le pays, gouvernementale peut-être, due à une défaillance de l'État peut-être. Et on a déjà oublié la déclaration qu'il a faite aux agriculteurs il y a une semaine, aux aux habitants du Sud-Ouest il y a deux semaines, et on est en train de suivre la prochaine l'actualité du moment. Et donc on n'a pas le temps, on n'a pas un logiciel qui suit toutes les déclarations des ministres. Donc
ils sont pas suivis des faits.
Ben oui. Donc en ils plus. Peuvent bien se mettre au pupitre et nous raconter que le permis de construire, ça va prendre une semaine, on va vous donner tant de milliards, ici et là, on va réduire la bureaucratie sur les agriculteurs, là on va descendre les normes.
On a déjà pas d'argent, qu'est-ce qu'ils construisent là,
réellement, comment on fait pour mesurer que ces effets d'annonce sont suivis de mesures concrètes? Il y a pas. Et ben comme elle l'a dit Sandrine, t'attends 4 ans, 5 ans. Donc le truc où on t'a dit ça va être rapide, en fait, mais c'est dans 4 5 ans. Donc ça déjà, tu vois, c'est leur chance. Ça c'est vraiment leur chance. Ensuite, les assurances, j'ai entendu c'est le cornu quoi qui a mis la pression sur les assurances. Oh, on va les surveiller machin.
Oui.
Mais attends, une assurance, ça assure,
ça dépend du contrat que tu as pris.
Ça assure des risques. Tu sais c'est quoi un risque? C'est peut-être pas. Là, avec le manque de moyens qu'on observe, avec le manque de déforestation, etc., c'est plus peut-être pas, c'est certain, ça va brûler, et ça va rebrûler très fort.
Parce que là, sache que c'est pas une catastrophe naturelle en plus. Hein.
Oui, exactement.
Du coup, c'est vraiment...
Non, ce sera vraiment en fonction de ce que tu as souscrit.
De ton contrat.
Exactement. Donc, c'est bien de mettre la pression sur les assurances, mais s'il veut pas que les primes augmentent pour les citoyens, il faudrait qu'on revienne à du vrai risque, ça veut dire peut-être pas. Là, ça devient certain. Donc forcément, certainement, les primes, elles augmentent.
Je pense que tu peux faire confiance aux habitants du Porche qui étaient très en colère hier et qui ont, enfin, une partie d'entre eux qui ont eu Sébastien Lecornu pour faire savoir si les choses avancent ou pas. Et on saura faire ce qu'il faut dans les médias pour les relayer. Dans un instant, restez avec les grandes gueules. Santo sera avec nous. C'est un expert en cybersécurité. La France, une passoire informatique avec les attaques de hackers. Vous allez voir ce qu'il va vous raconter. Restez avec nous en direct sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.